Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir, mon nom est Alex Taylor, je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandant de bord, qui est ce soir Guillaume Cerruti, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux de Marseille, de l'Italie, de New York, du Japon, ainsi que la forêt autour du château de Dampierre. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher, ajuster votre imagination, redresser votre curiosité en vue de notre décollage immédiat. Préparez-vous à tout donner, adjugé vendu à la dame en rouge au fond, près des issues de secours. Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the beginning of the... Voyage en moi, majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir avec Guillaume Cerruti. Vous êtes le président directeur général de Sotheby's France et le vice-président de Sotheby's Europe. Tout d'abord, j'étais très content de lire l'une de vos réponses à notre questionnaire, parce que vous avez dit le moyen de transport que vous préférez et que vous n'aimez pas. C'est en avion, comme tous les grands, je souffre si je n'arrive pas à avoir les places près des issues de secours. Je pense que nous allons bien nous entendre. Comment vous faites-vous? Parce que moi, c'est exactement la même chose. On ne rentre pas dans les avions. Moi, je fais presque 2 mètres. Combien vous faites?
Je fais un peu plus d'1,90 m.
Oui,
bah, je suis moins haut que vous, mais oui, je souffre beaucoup. Il faut dire que ces dernières années, les possibilités de pré-imprimer sont... ticket ou son boarding pass.
Oui, mais il faut se lever de bonne heure.
Internet, ouais, a quand même facilité les choses, parce qu'on peut, si on est prévoyant dans les 24 heures qui précèdent, imprimer une place qui vous permet d'être face au...
Ah bon, moi, je suis obligé de me lever. Je programme parfois mon alarme pour me réveiller 30 heures avant le vol pour pouvoir avoir l'issue de secours qui reste à droite de vous qui prenez l'autre. Alors, nous allons en parler un peu au cours de cette émission, mais vous avez... demain, vous organisez une vente par Sotheby's. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a un élément qui touche au voyage. C'est ça qui est extraordinaire.
Demain, lundi et mardi, nous organisons la vente de la bibliothèque des Ducs de Luynes au château de Dampierre.
Qui est près de Paris.
Qui est dans les Yvelines, pas très loin de Paris, en Chevreuse. Ce sera un très grand événement. Il n'y a pas eu une bibliothèque de cette importance
qui
en qualité.
De...
C'est une bibliothèque qui a été composée à partir du XVIIIe siècle et qui donc va nous amener, à l'occasion de ces ventes de demain et de mardi, et puis de nouvelles sessions cet automne, jusqu'au 19e siècle.
Alors, justement, nous allons en parler plutôt à la fin de l'émission, pour donner envie de couvrir cet événement. Mais vous avez des éléments dans la bibliothèque qui concernent directement le voyage tel que c'était vécu au XVIIe siècle.
Oui, cette bibliothèque comporte des éléments liés à l'histoire, à la généalogie, au voyage, à la littérature, à la musique, aux religions. Et la partie consacrée au voyage est extrêmement importante et de très grande valeur, d'un très grand intérêt également. Et je suis heureux, par exemple, de vous parler de ce lot, ce numéro dans la vente, Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du roi depuis 1774 jusqu'à 1781, dans lequel on traite des mœurs, de la religion, des sciences et des arts, des Indiens, des Chinois, des Pégouins et des Madégas. Et il est dit que cet ensemble réunit 140 planches hors texte, d'après les dessins de Sonnera, gravées par Poison, 1100, avril, dont 20 dépliantes, y compris le plan de Pondichéry, les autres représentant les cérémonies religieuses des Indiens, les métiers, la flore et la faune.
Voilà, vous donnez envie de voyager dans le temps.
Voilà qui est parfait distance pour votre émission, Alex.
Absolument. Nous allons en parler un peu plus tard dans l'émission, mais pour le moment, Guillaume Cerruti, je vous rappelle que vous êtes en train de piloter notre avion et nous avons décollé. Et pour le moment, on survole votre ville, Marseille.
Oh,
du Berlioz, Les Nuits d'été, L'île inconnue par Régine Crespin, marseillaise, bien sûr, et votre toute première escale, Guillaume Cerutti, c'est Marseille, votre ville.
Je suis né pas très loin de Marseille. Et
où exactement?
À La Ciotat, à une vingtaine de kilomètres de Marseille.
Et vos parents sont italiens, enfin...
Mes grands-parents étaient italiens.
Oui.
Et ils étaient pour deux d'entre eux piémontais. Un troisième était lombard. Et ma grand-mère maternelle était tchèque. Et tout ce petit monde s'est retrouvé dans la région de Marseille, de Gardanne, d'Aix, où il y avait à ce moment-là des flux d'immigration très forts.
Ils étaient maraîchers.
Oui, mes grands-parents étaient maraîchers. Marseille est une ville qui a une caractéristique que l'on connaît quand... on la fréquente, c'est une ville très étendue. Et donc, il y avait à cette époque, il y a encore aujourd'hui, la campagne dans la ville. Et donc, mes grands-parents étaient maraîchers dans un quartier qui s'appelle Saint-Loup, à Marseille. Et puis...
Quel souvenir est-ce que vous avez de leur métier?
Le souvenir d'abord d'un métier extrêmement contraignant, où on travaille jour et nuit, et où la notion de week-end n'existe pas. Également, l'autre souvenir que j'ai à la fois de mes grands-parents et de mes parents, c'est immédiatement la volonté de s'intégrer dans la communauté marseillaise, dans cette région. Ce qui fait, et je pense que beaucoup de personnes originaires de ce pays pourraient raconter la même chose, mes grands-parents ne parlaient pas italien avec leurs enfants. Et mes parents, donc, ne parlaient pas italien.
Et vous, vous parlez italien?
Moi-même, je n'ai pas appris l'italien, et c'est depuis seulement 3 ou 4 ans que je prends des cours d'italien.
Et ça
parce
vous fait
que je vivais cela comme un manque. Je sais très bien, d'abord parce que j'aime beaucoup l'Italie, j'ai grand plaisir à y aller très souvent, je sais très bien que mes racines sont là-bas. J'adore l'Italie, comme beaucoup. En plus, moi, il y a donc cette particularité que ma famille en venait, et donc je me suis mis à l'italien.
Et qu'est-ce qu'il y a d'italien en vous, alors, avec ce background?
D'abord, une attirance pour le Sud. Marseille est une ville italienne. Il y a beaucoup d'Italiens à Marseille. D'ailleurs, je dois vous remercier, Alex, parce que vous avez parfaitement prononcé mon nom. Vous avez dit Cerutti. À Marseille, on m'a toujours appelé Cerutti. C'est quand je suis venu à Paris pour faire mes études que j'ai entendu mon nom un peu écorché, certains m'appelant Cerutti ou Cerutti, et ne prononçant ni à la française ni à l'italienne. À Marseille, la communauté italienne était si forte, hein, l'intégration était si poussée à ce moment-là, dans les années 60, 70, 80, que mon nom a toujours été francisé parfaitement.
Alors, attendez d'avoir un nom britannique, parce que vous allez avoir toutes les variations possibles. J'ai vu une lettre l'autre jour, une lettre très gentille, adressée à Alex Taylor, T comme T-H-A, comme le T, Lord, comme Lord après Alex Taylor. Vous dites de votre propre ville, dans notre questionnaire, Marseille est une ville fascinante et exaspérante à la fois.
C'est une ville fascinante parce que, d'abord, c'est une très grande ville, une ville d'une très grande variété. On dit qu'il y a plus d'une centaine de villages qui composent Marseille. C'est une ville également où je n'ai jamais retrouvé, où que mes voyages m'aient entraîné ensuite, la même lumière. Nous avons cette particularité à Marseille qui est le Mistral, qui balaie toujours le ciel lorsqu'il souffle, hein, et qui donne une lumière à nul autre pareil.
Et qui rend les gens un peu fous, quand même.
Et qui rend les gens, dit-on, un peu fous.
Et bah, vous avez vécu dans le Mistral, ça a quel effet? Moi, je n'ai jamais compris, parce que je dis du Nord, ça a quel effet?
Je pense que tout dépend de la durée du Mistral. Vous savez, on dit si le Mistral se lève la nuit, il dure une nuit, s'il se lève le jour, il dure 7 jours. Donc déjà, ça dépend de la durée qui tape plus ou moins sur les nerfs des personnes, mais le Mistral est un élément extrêmement important. Elle est une ville également exaspérante, hein, parce que c'est une ville qui a en main tous les atouts pour être une capitale, qu'elle est dans une certaine
capitale
mesure.
Capitale de la culture en ce moment.
Capitale de la culture européenne. En ce moment, mais elle pourrait être bien plus que ça. Elle pourrait être une capitale de la Méditerranée. Marseille devrait être l'égale de Barcelone.
Qu'est-ce qui l'en empêche?
Je pense que beaucoup de phénomènes se sont accumulés pour empêcher Marseille d'exploiter ses atouts extraordinaires. Alors aujourd'hui, il y a une mobilisation, il y a la capitale culturelle, il y a une classe économique également de jeunes entrepreneurs passionnés qui valorisent cette ville. Et puis il y a des gens qui en sont partis, dont je fais partie, mais qui restent très attachés et qui ne manquent pas une occasion d'en parler.
Voici la vaste plaine, le désert de la Croix de Mireille de Charles Gounod. Là, c'est par l'orchestre et les chœurs de la Suisse romande pour parler de la région autour, de la Camargue notamment, à Guillaume. C'est outil pourquoi ?
C'est pour parler de la Provence surtout, puisque, comme vous le savez, comme vos auditeurs le savent, cet opéra de Gounod a été composé sur un texte de Frédéric Mistral, qui est le grand poète provençal par excellence, hein, celui qui a magnifié, mis à l'honneur la langue provençale, celui qui a été prix Nobel d'ailleurs également. Le premier prix Nobel était provençal, le premier prix Nobel était Frédéric Mistral. Donc il était indispensable de parler de Frédéric Mistral et d'écouter cet enregistrement de Mireille avec l'air qui montre Mireille partant à la recherche de Vincent, se trouvant dans le désert de la Croix qui va lui être fatal.
C'est Valérie Masterson dans le rôle de Mireille. Ce que je ne comprends pas exactement, Guillaume Cerutti, c'est que vous avez fait, moins qu'on puisse dire, c'est qu'une carrière complètement différente de vos parents. Vous avez été donc le DIRCAB, comme on dit, de Jean-Jacques Ayago, ministère de la Culture. Vous avez été directeur général du Centre Pompidou. Vos parents, c'est un peu un mythe, mais est-ce que vos parents ont tout sacrifié pour que vous puissiez avoir une belle carrière ? Est-ce que ça ne met pas une pression épouvantable aussi, quelque part ?
Je leur dois beaucoup, parce qu'ils m'ont toujours placé dans les meilleures conditions pour que je puisse réussir. Et donc j'ai eu cette chance, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, d'aller dans les très bonnes écoles. Et ensuite, j'ai eu de la chance dans les rencontres que j'ai faites.
Et donc c'est un mélange
de bonne chance. Je ne connaissais pas les codes des grandes écoles, mais j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé, préparé des concours, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc j'ai eu, je pense, de la chance dans ma vie, d'abord, encore une fois, d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé, encouragé, et qui ont effectivement beaucoup sacrifié pour moi. J'en suis infiniment reconnaissant.
Est-ce que ce sacrifice n'est pas un lourd fardeau aussi ? Parce que quelque part, vous vous sentez obligé, de peut-être tout le temps, de leur donner raison pour ce sacrifice.
Il faudrait que vous posiez la question à ma mère, et que vous lui demandiez. Je pense que, par mon tempérament, parfois, j'ai pu être un lourd fardeau, effectivement. Pour le reste, ensuite, je crois que... j'ai eu de la réussite, hein, et je pense qu'elle en est fière.
Juste pour terminer sur Marseille, il se trouve par le plus pur des hasards que j'étais là. Moi-même, la semaine dernière, j'ai vu le nouveau MUCEM, ce nouveau musée qui va bientôt s'ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mélange de lumière avec les ziggourats qui laissent passer de la lumière comme ça? C'est un bâtiment assez remarquable de Rudy Ricciotti.
C'est un très beau bâtiment de Rudy Ricciotti, qui est un architecte méditerranéen, donc il interprète très bien.
Ah ça oui, parce que je l'ai rencontré, voilà, plus méditerranéen.
Il l'est par la verve, par le tempérament, mais également par la maîtrise des codes méditerranéens. Donc il a bien compris les effets de la lumière, l'exploitation des espaces particuliers qui sont ceux de la Méditerranée. Donc le MUCEM, qui sera bientôt ouvert au public, valorise très bien l'entrée du port. Ça sera un signal important. Mais ce n'est pas la seule chose qui sera rénovée cette année à Marseille. Par exemple, vous avez l'un des plus beaux musées français, qui est le Palais Longchamp, un musée des Beaux-Arts, et qui était laissé plus ou moins dans un état d'abandon depuis de longues années, et qui va être rendu au public, enfin, rénové par Jean-François Baudin, très bon architecte, hein, à la fin du mois de juin. Donc on va redécouvrir une autre facette de Marseille.
Qu'est-ce qui reste marseillais en vous? Parce que, en dépit de mon accent britannique, je perçois que vous n'avez pas trop l'accent que j'ai entendu la semaine dernière à Marseille.
J'ai sans doute perdu progressivement cet accent.
Un peu exprès.
Mais vous savez, il suffit que je me replonge en Méditerranée pour que je le retrouve très vite quand j'y passe du temps.
Vous avez perdu exprès ou non?
Non, absolument pas. Je crois que je ne l'ai jamais eu de manière très marquée.
Alors justement, vous nous avez parlé de vos racines italiennes et voici notre escale suivante. Povero Rigoletto Verdi avec notamment Tito Gobbi, William Dickey et Renato Ercolani avec il coro del teatro alla Scala de Milan. Alors l'Italie, donc vous découvrez la langue, mais le pays vous y allez depuis longtemps j'imagine.
Oui, j'ai beaucoup voyagé en Italie depuis longtemps et je ne m'en lasse pas.
Dans vos fonctions et pour des raisons personnelles?
Les deux. Aujourd'hui j'ai la chance dans mes fonctions européennes d'être également responsable pour l'Italie. ce qui me donne une raison supplémentaire pour le travail.
Doit être... Est-ce qu'il y a encore des choses à acheter en Italie ou est-ce que tout le monde a déjà tout vendu ?
Le problème est différent en Italie. Il y a encore beaucoup de choses, mais la réglementation italienne est extrêmement ferme et il est très difficile pour un étranger d'acheter des objets et de les sortir d'Italie. Donc c'est un des pays qui, sans doute instruit par l'expérience, a beaucoup protégé son patrimoine.
Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quand même interdit de...
Oui, vous avez, comme en France d'ailleurs, mais c'est sans doute plus général en Italie, une obligation de notifier, puisque c'est comme ça qu'ils disent, la notificazione, de notifier tout objet au-dessus d'une certaine valeur que vous envisagez de mettre en vente.
Quel genre de valeur ?
Alors, je crois qu'en Italie, c'est souvent en valeur... zéro, c'est-à-dire dès que vous avez un objet historique qui a plus de 50 ou 100 ans, vous devez le soumettre
de toile,
dans tous les domaines. Vous devez les soumettre aux autorités culturelles italiennes qui vous attribuent un certificat qui vous permet de vendre sur le marché international, que ce soit à Milan ou ailleurs, les pièces en question. Donc l'Italie est un pays qui protège fortement son patrimoine,
mais ils ont raison,
avec
non ?
Des avantages, mais parfois aussi avec le risque de le rigidifier un petit peu. Hein, c'est un patrimoine doit vivre, hein, il doit également être collectionné par des personnes qui résident ailleurs, et puis il doit être enrichi de choses qui viennent de l'extérieur.
Alors j'ai préparé, j'ai lu des choses sur vous et je ne savais pas que la France aussi c'était assez compliqué, mais c'est moins compliqué que l'Italie maintenant. Parce que Paris veut surtout, dans le monde des enchères, rivaliser avec Londres et New York. Donc la législation française, on en est où pour le moment ? Est-ce que la crise a aidé à ouvrir un peu le marché ?
C'est une très longue histoire. Longtemps, la France et Paris ont été le marché numéro un dans le monde pour les objets d'art. À l'époque où Paris était la capitale artistique, où les artistes résidaient, et où également le marché n'était pas mondialisé comme il est aujourd'hui. Donc jusqu'aux années 60-70, la France était leader sur ce marché. Et puis, au moment où le marché est devenu mondial, et on a vu des gens acheter un peu dans toutes les localisations, la France, au lieu de tirer les avantages de sa force dans ce domaine, a fermé ses frontières. Et elle a interdit à la concurrence internationale, des maisons comme Sotheby's, de vendre en France. Et ça a précipité le déclin du marché français au profit de places comme Londres et New York, qui au contraire se sont érigées en capitale du marché de l'art. En 2001, la France, réalisant tardivement son erreur, a ouvert ses frontières. Et depuis cette date, Sotheby's peut vendre à Paris, comme nous le faisons pour la bibliothèque des Ducs de Luynes demain. Mais la France n'est plus que le quatrième marché mondial. Les États-Unis, le Royaume-Uni et aujourd'hui la Chine l'ont largement dépassé.
Quels sont les objets qui vous ont le plus étonné en Italie même ? Revenons sur l'Italie, vous avez vu des choses qui vous ont vraiment surpris.
Oui, dans mes voyages, j'ai un souvenir très marquant de la ville de Lecce, qui est une ville de l'extrême sud de l'Italie, une ville baroque blanche absolument extraordinaire. J'ai également des rêves inassouvis, par exemple... J'adorerais pouvoir un jour, et on me l'a promis, donc un de mes collègues en Italie qui peut l'organiser me l'a promis, j'espère le réaliser, j'aimerais traverser le corridor Vasari qui, à Florence, rejoint, comme vous savez, les offices au jardin de Boboli. Voilà, on traverse sur la rivière et on passe dans ce passage secret qui est aujourd'hui fermé au public. Ça, je trouve, ce sont des choses absolument mystérieuses, mythiques, qui nourrissent aussi ma fascination pour l'Italie.
Thank you.
Vous écoutez Voyage en moi majeur avec notre commandant de bord qui ce soir, Guillaume Cerruti. Et là, vous écoutez Herbie Hancock, Watermelon Man, votre choix pour parler d'une ville. Je reprends votre réponse dans le questionnaire. Et pour moi, une source permanente d'émerveillement, New York. Pourquoi ?
C'est une ville où je vais régulièrement, puisque Sotheby's est une entreprise américaine aujourd'hui. Ça a longtemps été une société anglaise.
Bah, c'était à l'origine, en Sotheby's, oui.
Fondée à Londres en 1744, mais devenue américaine il y a une trentaine d'années. Et donc, nos quartiers généraux sont à New York, et j'y vais régulièrement, une ou deux fois par an. Et c'est une ville qui est, comme je l'ai dit, fascinante, parce qu'en mouvement perpétuel. J'étais à New York le lendemain du cyclone, au mois de novembre. Vraiment le lendemain, en prenant le taxi pour aller à Manhattan de l'aéroport, la ville était coupée en deux. Il y avait en dessous de la 38e rue, la ville dans le noir, puisque l'électricité était coupée, et au-dessus, les lumières normales de la ville. Donc, paysage, spectacle absolument fascinant. Le lendemain, la ville avait redémarré complètement. Alors, tout ne marchait pas, mais les gens étaient au travail, enthousiastes, cherchant des solutions par eux-mêmes. Alors, c'est une leçon pour nous, Français, où... confronté à ce genre de situation, on cherche toujours, par réflexe historique ou par tempérament, l'aide de l'État. Que fait l'État dans ce genre de circonstances ? Aux États-Unis, on compte sur soi d'abord. Et ça, c'est fascinant.
C'est une ville, curieusement, entre la modernité et entre la nostalgie, je trouve. Parce que la dernière fois que j'ai vu New York, je me suis dit, c'est quand même une ville qui est un peu figée dans les années 30. Dans l'espoir des années 30, qui reflète un peu ça, surtout qu'il n'y a pas les deux tours maintenant. Donc, quand on voit le Manhattan de loin, c'est quand même une ville moderniste et futuriste, mais figée un peu dans le temps.
Je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose de contemporain et classique à la fois dans New York. Quand vous allez, comme je l'ai fait il y a quelques mois, en Hong Kong ou à Pékin, vous voyez que vous êtes projeté, parfois avec violence, dans une ère contemporaine absolue. À New York, c'est différent. C'est à la fois le cœur du monde, c'est une ville incroyablement cosmopolite, incroyablement variée, et en même temps, il y a quelque chose d'assez familial et rassurant dans cette ville. On s'y sent chez soi.
Control your face.
La célébrissime chanson de David Bowie, The Man Who Sold the World, ça tombe bien pour vous, l'homme qui a vendu le monde, monsieur le président directeur général de Sotheby's France. Mais là, c'était pour, par Nirvana, c'est une version différente. Pourquoi ?
C'est un enregistrement de Nirvana des années 90, que j'aime beaucoup, comme tout l'album d'ailleurs, qui s'appelle Unplugged in New York. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et je l'aime beaucoup parce que, comme l'accompagnement est à la guitare sèche, était extrêmement réduit, on découvre toute la veine mélodique et le génie mélodique de Kurt Cobain, qui était un très grand artiste. Alors que dans les enregistrements plus traditionnels des albums de Nirvana, souvent, la ligne mélodique est un peu cachée par les guitares électriques et l'ensemble de l'orchestration. Là, on retrouve... dans cet album, vraiment, le génie à l'état pur de Kurt Cobain. Et puis, il y a un autre élément, vous l'avez rappelé, ce n'est pas une chanson originale de Kurt Cobain, c'est une chanson de David Bowie, reprise par Kurt Cobain. Et ça me fait plaisir d'évoquer la personnalité de David Bowie, qui, comme tous les jeunes qui ont grandi dans les années 70, a été une figure très marquante pour moi, que j'admire toujours beaucoup, et qui a une très grande exposition à Londres, comme vous le savez, en ce moment.
Alors Guillaume Céauty, vous êtes l'homme qui vendait le monde chez Sotheby's. Est-ce que parfois...
Je n'ai pas cette ambition.
Parfois, vous posez des questions sur la valeur qu'on attribue à certains objets ou certaines œuvres d'art. Est-ce que vous-même, vous vous dites, mais c'est fou, l'argent que les gens payent pour cette œuvre-là?
C'est une question qui appelle plusieurs réponses. D'abord, est-ce que je me pose la question de la valeur des choses en permanence? Parce que dans les ventes aux enchères, vous avez la rencontre entre un objet, une œuvre d'art qui est à vendre et un désir souvent irrationnel de la part de quelques enchérisseurs de conquérir et d'acquérir cet objet.
Et qui vient d'où ce désir irrationnel ?
De la passion, une passion parfois compulsive, de gens qui collectionnent, qui sont attachés à une période, à un style, à un artiste et qui ont envie... pour leur collection, pour leur plaisir personnel, d'avoir cette œuvre ou cet objet. Donc oui, je me pose la question en permanence, mais en même temps, j'ai beaucoup d'indulgence, parce que je garde deux choses en tête. D'abord, sur les valeurs qui peuvent être importantes, et puis parfois, comme ça, faire l'actualité sur une œuvre d'art contemporain vendue plusieurs millions d'euros, cela a toujours été le cas au fil des décennies. Le marché de l'art a toujours été, pour les œuvres d'art contemporain, secoué par des mouvements sinusoïdaux incroyables, des choses qui faisaient un prix colossal et puis qui ensuite passaient de mode. Donc le temps se charge de reclasser les grands artistes et puis les choses moins importantes. Et il faut avoir donc un peu de distance et d'indulgence par rapport à ça. Et la deuxième chose qui me fait être très indulgent, c'est que je sais, parce que je côtoie ces collectionneurs, que c'est leur envie, leur passion qui les amène parfois à faire ces folies. Et donc c'est également pour eux réaliser un rêve. Il faut avoir de l'indulgence pour les rêves et ceux qui veulent les réaliser.
Quelles sont les émotions, les passions que vous voyez dans les salles de vente quand vous avez des objets qui valent tellement d'argent ?
On voit toutes sortes d'attitudes, mais ce qui me frappe le plus, c'est que les collectionneurs, quel que soit le niveau de valeur de l'objet visé, que ce soit quelques centaines d'euros, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, quand ils veulent réellement un objet ou une œuvre d'art, ils sont prêts à aller très au-delà de leurs limites raisonnables. Et un jour, un collectionneur m'a dit « J'ai dépensé toute ma fortune dans ma collection, plus 10%. » Et je trouve que c'est souvent une très bonne définition de ce qu'est un collectionneur. C'est quelqu'un qui, par passion, va au-delà souvent de ce qui est raisonnable pour assouvir cette passion.
Qui peut encore se permettre, je ne vous demande pas les noms de vos clients, mais qui peut se permettre encore, c'est quel genre de nationalité? Est-ce que ce sont les Russes, les Chinois, comme on dit, ou c'est les Arabes? Qui peut encore se permettre des choses très chères?
Dans les objets extrêmement chers, le marché aujourd'hui est totalement mondial. Vous avez des collectionneurs européens, américains, mais aussi, vous avez raison, depuis quelques années, des collectionneurs chinois, des collectionneurs des pays du Golfe. Aujourd'hui, le Qatar est l'un des pays qui est le plus actif sur le marché de l'art, notamment de l'art contemporain. Mais le marché de l'art a cette caractéristique qu'il n'est pas un marché homogène, unique, monolithique. Il est composé de plusieurs dizaines de micro-marchés. Et donc, à côté des œuvres d'art contemporain ou des œuvres d'art moderne qui atteignent des prix très élevés, vous avez des disciplines qui permettent à des amateurs de collectionner, de constituer des collections extraordinaires à moindre frais. Nous avons vendu, par exemple, au mois dernier, une collection de gravures, qui étaient des gravures commandées par de grands artistes comme Picasso, à un des plus grands graveurs, Crommelinck, et les prix partaient de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et nous avons eu un afflux de collectionneurs désireux d'acheter une œuvre originale de Picasso à l'occasion de cette vente.
C'est un extrait du dialogue du vent et de la mer, animé et tumultueux, je cite, de Debussy. Alors c'est The London Symphony Orchestra par Valérie Gergiev sous sa baguette. Pourquoi pour parler du Japon? C'est un choix étrange.
Le Japon est le premier pays lointain où j'ai voyagé, jeune étudiant, et où j'ai eu la chance de rester assez longtemps, puisque j'y ai fait un stage dans une entreprise française là-bas pendant 6 mois. Et donc c'est un pays que j'ai pu découvrir. Pour lequel je garde une admiration et un souvenir très fort.
Admiration, à quel niveau ?
C'est un pays, c'est d'abord un très grand pays, un pays dont on sent la puissance, qui se voit dans les choses de la vie quotidienne. À l'époque, l'économie japonaise était à son sommet. Et puis, c'est un pays qui est fascinant également, je ne vais pas employer ce mot trop souvent ce soir, mais c'est un pays qui est très dépaysant, le plus dépaysant qui soit, parce que j'ai rarement eu l'occasion dans ma vie de me trouver face à des interlocuteurs, des Japonais, dont je voyais bien que leur mode de pensée, leur rapport à des choses fondamentales pour nous, le temps, l'espace, la relation humaine, étaient radicalement différents de ceux que nous avons, nous, en Europe.
Est-ce que vous savez que les Japonais, moi j'ai découvert ça quand j'ai écrit un livre sur les langues, les Japonais n'avaient pas de mot pour amour jusqu'au début du 20e siècle, quand il fallait traduire les premiers romans victoriens, où il y avait le mot amour, et comme c'était une société où on ne tombait pas amoureux, parce que c'était des mariages arrangés, donc ils n'avaient pas ce concept. Donc est-ce qu'on peut tomber amoureux quand la langue du pays ne vous donne pas le moyen par un mot ? Vous avez répondu à notre question, le repas le plus étonnant étonnant au cours de vos voyages, c'est justement au Japon avec une dégustation de fugu. C'est quoi le fugu ?
Le fugu, c'est un poisson venimeux, un poisson poison, la dégustation se fait selon une préparation très précise, parce que si les glandes de ce poisson, qui sont donc mortelles, ne sont pas retirées, vous pouvez avoir une très mauvaise expérience.
Quel est l'intérêt de manger ? Parce que c'est,
parce que c'est très goûteux, c'est un très bon poisson. C'est un très bon poisson, mais il doit être préparé selon une tradition qui amène le cuisinier à en retirer les parties dangereuses. Et à la fin de votre dégustation de fugu, s'il a été bien préparé, vous devez avoir les lèvres légèrement piquantes. Parce qu'il y a un reste du poison du fugu.
Est-ce que vous faites partie, Guillaume Seouti, de tous ces gens qui reviennent du Japon en disant que les sushis, c'est très différent là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici, ou est-ce que c'est la même chose ?
J'étais au Japon il y a très longtemps. À cette époque-là, il n'y avait que très peu de restaurants sushis à Paris
même
et en France.
Ah, oui.
C'était à la fin des années 80. Le développement des restaurants de poisson à Paris est une chose relativement récente. Mais je connais, je pourrais vous les recommander, quelques petits restaurants japonais à Paris absolument remarquables qui, à mon avis, n'ont rien à envier aux restaurants au Japon.
Vous allez me le faire en antenne, sinon on va se faire accuser de faire de la pub. Mais nous enchaînons tout de suite avec un autre morceau pour parler du Japon, c'est Dvorak. Dvorak, un extrait du concerto pour violoncelle numéro 2, Seiji Ozawa, et l'orchestre symphonique de Boston. Et là, on vient d'entendre Rostropovitch. Et je crois que vous avez une histoire sur lui.
C'est une des plus jolies histoires des ventes aux enchères de ces dernières années. Chez Sotheby's, en 2007, à la fin de l'année 2007, nous vendions la collection de Mislav Rostropovitch et de son épouse. Donc c'est une collection russe. Les Rostropovitch avaient fui l'URSS et avaient constitué une collection dans leur résidence occidentale faite d'objets traditionnels russes, des objets impériaux, des œufs de Fabergé. Et lorsque nous avons mis cette collection aux enchères à Londres, dans les jours qui ont précédé la vente, un millionnaire ou milliardaire russe s'est présenté et nous a proposé d'acheter toute la vente avant qu'elle ait lieu, en proposant un prix que nous nous sommes sentis obligés de transmettre à la veuve de Rostropovitch, qu'il a accepté, Et donc, c'est dans l'histoire, en tout cas récente de Sotheby's, le seul exemple de vente annulée parce que tous les lots de la vente avaient été achetés à un prix très intéressant par un collectionneur qui voulait garder l'intégrité de la collection et la ramener en Russie.
En Russie. Alors, nous vous approchons de notre dernière escale parce que très adroitement, vous avez piloté notre avion pour venir en France. Et notre dernière étape, c'est le château de Dampierre. Indes galantes, bien sûr, de Rameau, les arts florissants sous la direction de William Christie. Alors justement, Guillaume Cerruti, c'est pour parler de la vente. Vous en avez parlé au début de l'émission que vous organisez demain au château de Dampierre, de la bibliothèque des Ducs de Luynes. Et pourquoi cette musique d'ailleurs?
Parmi les plaisirs qui avaient lieu à Dampierre, chez les Ducs de Luynes, la musique occupait une place extrêmement importante et on trouve un ensemble de partitions et de manuscrits dont une partition des Indes galantes de Rameau, à côté de pièces de Gluck, d'un ensemble italien extrêmement important également. Et donc je pense que c'était bien pour parler de cette vente qui aura lieu demain à partir de 16h chez Sotheby's.
Et pourquoi maintenant cette vente a lieu?
Je pense que la bibliothèque des Ducs de Luynes est une des plus célèbres qui soit. Le château de Dampierre est également un château extrêmement complexe à entretenir, et les propriétaires, pour faciliter cet entretien, ont choisi de se dessaisir d'une partie qui est donc la bibliothèque. Ils nous ont choisi pour la mettre en vente, hein, et nous avons organisé jusqu'à hier une scénographie chez Sotheby's.
Une scénographie,
c'est une présentation qui est en quelque sorte une reconstitution de ce qu'était la bibliothèque du château.
Et comment vous avez travaillé ensemble avec eux? Comment est-ce qu'on organise un tel événement?
Ben, je pense que ça commence par une relation de confiance, hein, entre ces propriétaires et puis les experts qui travaillent chez Sotheby's. Et nous avons la chance d'avoir une équipe dans le domaine des livres et manuscrits absolument remarquable, dirigée par une grande spécialiste, hein, dont j'ai grand plaisir à citer le nom, Anne Elbron. Et puis nous sommes attachés au concours d'experts extérieurs, Dominique Lecournet par exemple, qui est un grand spécialiste de cette bibliothèque. Et je pense que c'est ce projet et le style avec lequel nous avons construit cette vente qui ont séduit les propriétaires.
Et quels sont les livres qu'on trouve?
Il y a plus de 1000 volumes dans cette bibliothèque qui sera vendue pour partie demain et mardi, et puis une autre partie à l'automne.
Individuellement ou par lot?
Il y a des regroupements, il y a des lots, et puis il y a des pièces individuelles parce que leur importance justifie qu'elles soient mises en vente seules. Et on y trouve une variété absolument prodigieuse de livres de voyage, de récits, de documents musicaux, de documents sur les religions. Et à l'automne, nous vendrons une autre partie de la bibliothèque qui, elle, nous amènera vers le bassin méditerranéen. Car l'un des ducs de Luynes a collectionné les ouvrages autour de l'archéologie et de l'histoire de la Méditerranée. Ce qui nous ramène au début de notre voyage, Marseille.
Est-ce que vous avez une idée des sommes que ces livres peuvent déclencher, ou est-ce que c'est une surprise parfois? Est-ce qu'il y a, moi, je n'y connais rien, je n'ai jamais été dans une vente aux enchères. Est-ce qu'il y a un prix de départ qu'il faut, il faut démarrer sur un prix? Est-ce que le propriétaire a le droit de dire « Ah non, ça, si c'est en dessous de ça, je ne le vends pas »
Il a absolument ce droit. Et le contrat que nous avons avec toutes les personnes qui nous confient des objets à vendre prévoit un prix en dessous duquel l'objet n'est pas vendu et leur revient. Et donc cela est défini entre nos experts et les propriétaires. Ensuite, c'est le travail du commissaire-priseur de faire monter les enchères. Et dans le cas de la bibliothèque, je pense que ce sera le cas, car l'importance historique est exceptionnelle.
Est-ce que le commissaire-priseur a le trac avant un tel événement? Vous en avez plusieurs? Quel est leur état d'esprit aujourd'hui?
Nous avons plusieurs commissaires-priseurs, et quand je discute avec eux, ils sont absolument unanimes, qu'ils soient expérimentés ou jeunes dans le métier, lorsqu'ils sont au pupitre et qu'ils commencent la vacation, ils ont tous le trac.
Est-ce que vous-même, il y a un livre ou un objet que vous avez vu, que vous auriez voulu acheter vous-même? Parce que vous allez peut-être acheter quelque chose vous-même, allez dites.
Alex, je voulais peut-être vous dire, comme une forme de clin d'œil, que vous qui êtes anglais, qui êtes un sujet de Sa Majesté, vous serez peut-être touché par le fait qu'il y ait une carte d'une bataille, la bataille de Fontenoy, qui est une des quelques batailles où les Français ont défait les Anglais, en présence du roi lui-même, Louis XV, qui était sur le champ de bataille. Et donc nous mettrons en vente dans cette bibliothèque la carte extrêmement détaillée, où on voit le placement des troupes royales et celles anglaises face à face.
Et quel sera le starting price pour un tel objet à peu près?
Alors, c'est
pour vous donner une idée.
C'est une des pièces phares de la collection. Vous savez que c'est à Fontenoy que la phrase célèbre « Messieurs les Anglais, tirez les premiers » a été prononcée, et l'estimation sera de 30 000 à 40 000 euros.
Alors, monsieur le Français, c'est vous qui avez tiré le dernier. Donc, je rappelle, c'est au château de Dampierre, dans les environs de Paris. J'allais donner du RER, mais j'imagine que...
La vente a lieu chez Sotheby's à Paris, 76 rue du Faubourg Saint-Honoré.
D'accord. Donc, c'est la bibliothèque des ducs de Luynes de ce château. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Cerutti, pour ce voyage et pour ces révélations sur ce monde un peu hermétique pour certains d'entre nous. En tout cas, c'était un plaisir de le découvrir. Merci.
Merci, c'était un très grand plaisir de voyager avec vous.
Mesdames et messieurs, en vue de notre proche atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Florin, notre réalisateur, Maud Nourry, l'assistante de production, et ce soir la technique, Marie Le Peintre. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour l'un des tout derniers vols sur France Musique de cette émission. Vous pouvez trouver des détails sur notre site. En tout cas, il est temps de retrouver tout de suite pour ces nuits noires de monde, Laurent Valero. Monsieur le Français, c'est à vous de tirer. Merci beaucoup.